serviteur, celui, Seigneur Dieu, que tu t'es choisi, Seigneur Dieu, pour parler à nos cœurs en cet après-midi. C'est vrai que nous voulons avoir le cœur ouvert, nous voulons recevoir de toi pour avancer, pour progresser, non pas nous réunir pour devenir pire, mais vraiment pour devenir meilleur, Seigneur Dieu. Alors aide-nous à avoir ce cœur attentif qui prend même les miettes, Seigneur Dieu, pour se rassasier encore ce que tu veux nous dire en cet après-midi. Merci pour ton serviteur. Je veux également te remercier pour cette collecte, Seigneur Dieu. Si nous donnons, c'est parce que tu nous as préalablement donné. Et nous voulons simplement te dire merci. Et en retour, Seigneur Dieu, te confier, Seigneur Dieu, cet argent, Seigneur Dieu, que tu donnes encore la sagesse nécessaire à tous ceux qui ont en charge la gestion de cet argent pour mener à bien, Seigneur Dieu, l'œuvre. Ton œuvre, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse encore grandir, afin que le maximum puisse encore venir au pied de ta croix, se repentir et venir à ton admirable lumière. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous, Éternel. Nous te bénissons, te glorifions. Parle à nos cœurs en cet après-midi.
Oui, merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Amen. Vous savez combien de gens y meurent par minute sur la terre? Ce sont des statistiques, mais c'est quand même... Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de personnes meurent par minute? Pardon? Madame Lougouni. Combien? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Un peu plus. Il meurt 107 personnes par minute. C'est des statistiques. Allez sur Internet, tapez mortalité dans le monde, vous verrez. Est-ce que vous vous rendez compte, tous les gens qui partent? Oui, sur les 107, combien sont prêts à rencontrer l'Éternel? Et nous avons tous les jours, la possibilité de faire la paix avec Dieu. Quel bonheur! Vous savez, souvent, je vous le dis, parce que je pense à... Vous savez, au mauvais riche qui a été dans le lieu de tourment et qui aurait donné une petite minute de sa vie pour revenir sur terre, mais c'était trop tard. Et nous, là, encore une fois, deux fois dans la journée, et ce soir à la maison, nous pouvons toujours obtenir, réobtenir la grâce de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir le pasteur de Tarbes, M. Roland, qui nous a fait la joie de partager la parole de Dieu, la prédication, la communion fraternelle. Nous sommes heureux de l'inviter, que le Seigneur vous bénisse, pasteur. C'est important d'accueillir de temps en temps des pasteurs pour partager la parole de Dieu avec lui. Mais avant quelques annonces, j'ai oublié ce matin, mais vous savez que tous les samedis matins, avec Monsieur Olé, nous étudions la doctrine avec les frères susceptibles, mais de trouver leur place dans l'église, de faire chanter, de présenter la Sainte-Cène, d'avoir quelques responsabilités, même dans la prédication. Je crois que c'est important qu'ils soient bien formés sur la sainte doctrine. Donc c'est le samedi pour les frères à partir de 10h. Les instructions sur le baptême. Cette année, on a beaucoup d'ados qui sont en recherche et qui se posent des questions sur ce qu'est l'engagement. Donc, je vous demande de prier pour eux, bien sûr, mais sachez que les instructions pour le baptême sont le samedi à 18h. Merci. Merci, Jérémy. Ça me touche, Jérémy. Au bout d'un an et demi, il a compris que j'avais plus besoin. Merci, Jérémy. Instructions sur le baptême, le samedi à 18h, le dimanche à 18h. Mardi soir, j'ai été invité par Agapé France. Vous savez, c'est une association qui fait de l'évangélisation parmi les universitaires. J'avais prêché chez eux l'an dernier sur un sujet, je ne me rappelle plus lequel, mais j'avais terminé en parlant de la repentance, de la nouvelle naissance, de la conversion. Et la responsable d'Agapé France m'a appelé il y a un mois pour me dire, écoutez, est-ce que vous pouvez venir nous faire une étude sur la repentance? Parce qu'au milieu des universitaires chrétiens, certains ne sont pas convertis. Et je crois que c'est une bonne chose que les responsables commencent à réaliser. Donc, mardi soir, priez pour moi également pour cette réunion avec ces universitaires. Jérusalem, si vous pensez partir à Jérusalem l'an prochain, du 27 octobre au 3 novembre, signalez-vous, on est déjà une trentaine. Moi, je trouve que c'est un bon groupe déjà. Voilà, mais en fait, s'il y en a quelques-uns de plus, on vous acceptera. Si vous aimez votre pasteur, comme ça a été souligné tout à l'heure. Voilà. Voilà. Priez aussi pour les frères. Vous savez que tous les dimanches, nous faisons quelques remplacements à Mazamé, à Roche, ailleurs. Donc priez aussi pour les frères qui sont amenés, comme Janson ce matin qui est parti à Mazamé. On a demandé également de prier pour l'avenir d'un local, car ça fait plusieurs mardis que des personnes viennent et repartent. Alors on a besoin d'une direction de Dieu, soit pour trouver un local, soit pour scinder l'Église en deux, que sais-je, mais que vraiment la volonté de Dieu soit faite. Faites-en une affaire sérieuse, s'il vous plaît. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après les réunions de la semaine, vous les avez qui s'affichent. Voilà, maintenant laissons la place. Le ménage, oui, notre sœur Madame Bourdel, ce matin, qui est la secrétaire de l'Église, nous a rappelé s'il y avait quelques personnes qui voulaient s'ajouter pour que l'Église soit toujours propre. Voilà, une fois par semaine, il y a une équipe qui vient de 3 ou 4 personnes et qui fait en sorte que les locaux soient propres et accueillants pour les réunions. Donc, si vous voulez vous ajouter à cette liste, venez nous trouver, s'il vous plaît, à la fin de la réunion. Ça fait une fois par mois, quoi. Ça fait 2 heures par mois, à peu près, ou 3 heures pour entrer dans une équipe et participer, donc, au ménage. Voilà. Et vous avez également les remerciements de la famille Slama, enfin, la famille Brouet, surtout. Voilà, vous savez que Madame Slama est partie à la Patrie Céleste. Voilà, elle est partie. Madame Brouet, qui l'accueillait chez elle les derniers jours, me disait que les derniers jours, elle chantait l'après-midi, elle ne pouvait pas bouger, mais elle était sur son lit et qu'elle chantait des cantiques. Et ouais, quand on est prêt à rencontrer Dieu, c'est bien. Elle faisait partie des 107 qui sont prêtes. Gloire à Dieu et merci Jérémy pour le verre. Voilà, Monsieur Roland, s'il vous plaît.
Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai vus ce matin, quelques têtes, et puis, enfin, pas que les têtes, hein, mais voilà. Et je suis heureux d'être encore au milieu de vous cet après-midi. Merci, monsieur le pasteur, de m'accueillir au milieu de vous, hein, dans cette belle ville et cette belle église de Sainte-Agne. Voilà. Alors, on est là parce que on veut découvrir plus du Seigneur. Et pour ce faire, eh bien, Dieu nous a laissé un moyen. Vous le connaissez, ce moyen? C'est sa parole. Hein, la parole de Dieu. Il y a des gens parfois qui disent, oui, mais comment on peut connaître Dieu? Comment on peut... je crois que la parole de Dieu nous a été donnée, justement, pour répondre à toutes ces nombreuses questions que tout être humain se pose sur lui, que le croyant peut se poser aussi dans sa vie de croyant et dans sa marche avec Dieu, face à toutes les situations que nous vivons. Et la Bible, ce n'est pas le livre d'hier, c'est un livre d'aujourd'hui et pour demain. Ce n'est pas un livre réactionnaire ou passéiste, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a toujours une longueur d'avance. La Bible a toujours une longueur d'avance. Il y a des gens qui ont considéré la parole de Dieu s'est passée. Oui, vous voyez, il y avait certains intellectuels au XVIIIe siècle qui disaient, enfin intellectuels, ils se sont souvent bombardés comme tels, mais qui disaient, vous voyez, la Bible, c'est pas exact, parce qu'il y a des peuples, on sait même pas qu'ils existent, et tout ça. Et puis ces gens, ils ont pas vécu assez longtemps pour voir qu'il y a des archéologues, entre-temps, qui ont fait des recherches, et qui ont trouvé que les peuples de la Bible, eh bien, avaient existé. Voilà. C'est eux qui, aujourd'hui, c'est deux dont on ne parle plus. Hein, il y avait un de ces hommes qui s'appelait Voltaire, qui disait, dans un siècle, on parlera plus de la Bible. Bon, je veux pas dire qu'on parle plus de Voltaire, mais enfin, on parle de la Bible plus que jamais. Et Voltaire, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seraient capables de me citer ses œuvres. J'avais demandé ça une fois dans un camp de jeunes, et puis j'avais une étudiante en littérature, alors elle connaissait tous les trucs. Mais bon, voilà. Mais la parole de Dieu, par contre, la Bible, vient dans le monde entier de plus en plus de gens d'entendre parler. Alléluia. Et notre frère parlait tout à l'heure de, c'est vrai, de ce nombre impressionnant de personnes qui meurent chaque minute. Mais vous savez que dans certains endroits du monde, Dieu agit tellement dans certains cœurs et dans certaines vies, que dans certains pays du monde, il y a plus de gens par jour qui naissent de nouveau que de gens qui naissent dans les maternités. Ce n'est pas encore le cas en France, hein, mais on va tout faire pour, hein, d'accord ? Et parce que c'est formidable quand quelqu'un naît à la vie avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et voyez, c'est quelque chose qui est devant nous, et être chrétien, c'est pas être passéiste, mais je crois que c'est être quelqu'un du siècle à venir, hein, avoir une longueur d'avance. Alors j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, cet après-midi, et nous allons faire une lecture du premier verset jusqu'au verset 12. Verset 1 au verset 12, dans le livre de la Genèse. Voilà un personnage que l'on connaît, dont vous avez entendu parler. Certainement que vos pasteurs vous ont déjà parlé sur ce personnage, mais ça fait rien, même s'ils ont dit des choses, je vais le redire. Hein. Voilà, et puis on va découvrir aussi d'autres choses, je pense. J'ai intitulé ça « Les crises d'Abraham ». Donc Genèse 22, 1 à 12. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste ». Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Gloire à Dieu. » Nous connaissons Abraham, le père des croyants. Mais on s'aperçoit que dans sa vie, il est passé aussi par, j'ai mis le mot crise là, parce que nous aussi, nous connaissons des crises. Au cours de l'existence, nous passons par des périodes que aujourd'hui les hommes appellent en langage actuel des périodes de crise ou des crises existentielles. Des crises existentielles. L'adolescence, c'est une crise, dont certains ont beaucoup de mal à sortir. Le mariage est aussi une crise dans le sens de changement, de transformation, un changement de situation, une séparation, la vieillesse, la perte d'un être cher, etc. Et nous connaissons tout cela. Et nous connaîtrons tous cela, ces périodes, qui impliquent dans notre vie une remise en question des choses, qui impliquent qu'on ne reste pas dans la situation où on était auparavant. Et ces tournants sont parfois des occasions qui peuvent être néfastes pour certains, mais que le Seigneur veut aussi changer et permettre que ce soit des occasions favorables. Je dirais qu'il en est de même dans notre marche chrétienne, où nous sommes conduits à passer par différentes crises spirituelles, comme autant de carrefours dans notre relation avec Dieu, autant de choix, autant de conflits d'intérêts entre ce que nous dicte notre moi, je veux ceci, il faut que je fasse cela, ça sera comme ça. Et puis, ce que Dieu veut faire en nous et ce que Dieu veut faire par nous. Mais si chacune de ces étapes, nous les vivons avec foi, en étant attentifs à la parole du Seigneur, alors, en s'appuyant sur son œuvre et sa personne, cela nous permettra de progresser, d'aller de l'avant et non pas de reculer. On a le choix. La parole de Dieu nous offre cette possibilité. Les hommes qui n'ont pas Dieu, parfois face à certaines crises, c'est pour eux une dégradation de leur situation. Il y a des deuils qui détruisent la vie de certains individus, au point qu'ils ne s'en remettent pas. Je me souviens de cette femme qui avait perdu sa fille, qui avait une vingtaine d'années, et tous les jours elle allait sur la tombe de sa fille. Elle a fini par en mourir. Au bout de plusieurs années, le chagrin l'a détruit intérieurement et elle en est morte. Alors, je crois que là, il y a des choix. Marcher avec le Seigneur, c'est choisir. La foi, c'est aussi un choix. Je crois que c'est important de marquer cela. La foi, c'est le choix de la foi. Je choisis de croire ou de ne pas croire. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est comme une sorte de maladie ou de choses qui vous arrivent. Voyez, vous passez le carrefour et tout d'un coup, la foi vous tombe dessus et les uns l'ont, les autres ne l'ont pas. Il y a des gens qui disent « J'aimerais bien avoir votre foi ». Mais la foi, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui plane comme ça et puis tout d'un coup, pof, ça tombe sur quelqu'un. Ça n'arrive pas comme ça. La foi, c'est une décision, c'est on choisit de croire. C'est un choix qui se fait en connaissance de cause, éclairé par Dieu, par la parole de Dieu, bien sûr. Et c'est pour ça que nous prêchons l'Évangile, afin que les gens soient amenés à la foi. Il y a une foi vivante. Mais ensuite, ils ont le choix de recevoir ou de ne pas recevoir. C'est terrible, mais c'est ainsi. C'est très important. Dieu vous aime. Il ne vous forcera pas, comme il n'a pas forcé non plus Abraham. Et Abraham, lui aussi, est passé par différentes crises qu'il a vécues avec foi. Dieu l'a secouru et l'a affermi à chaque fois. Et j'aimerais voir donc en quatre points, je ne veux pas être trop long non plus, mais quelques carrefours essentiels dans la vie de foi d'Abraham, très rapidement. Pour ceux qui connaissent la Bible et l'histoire d'Abraham, certains l'ont peut-être même apprise à l'école du dimanche. Hein, des fois, on entend parler d'Abraham, etc., etc. Bon, pour les autres, je vais être succinct. Et puis, finalement, si vous voulez en savoir plus hein, et vérifier, ben, vous avez la Bible et vous lirez la Bible. Hein, vous lirez la Bible. Mais je vais quand même décrire les phases de sa marche avec Dieu. Dieu a été chercher un homme qui s'appelait donc Abraham, hein, pas Abraham au départ, mais Abraham, qui habitait un pays, la Chaldée. Il habitait à Ur, en Chaldée, une ville bien connue. Et dans cet endroit, Abraham avait tout un environnement, des habitudes, une culture, une certaine sécurité, parce que la civilisation chaldéenne de cette époque-là était une civilisation qui connaissait un certain développement. Donc l'administration était organisée, on a même retrouvé, bon, ils écrivaient sur des tablettes en argile, des choses comme ça, mais enfin on a retrouvé des documents, il y avait même des notaires, il y avait enfin la société était très très organisée. Nous on pense qu'on a tout inventé au XXe siècle, hein, mais ils avaient déjà beaucoup développé leur civilisation, et donc ça fournissait une certaine sécurité que d'habiter dans cette région, dans cet endroit-là, parce qu'il y avait d'autres endroits où c'était pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, Abraham va en faire l'expérience. Hein. Il va passer dans des endroits qui étaient un peu des coupes-gorges, où vous aviez des tribus qui se promenaient dans le désert comme ça, et qui c'était assez dangereux. Mais là, il était en sécurité. Et puis, il avait une religion. Les Chaldéens n'étaient pas des gens sans religion. Ils avaient une religion. Ils adoraient la lune, le soleil, hein, qu'ils appelaient de toutes sortes de noms bizarres. Enfin, pour nous, pour eux, c'était pas bizarre. Mais ils avaient une religion. Et voilà que Dieu va parler à cet homme. Cet homme qui ne connaît pas le Très-Haut, qui ne connaît pas l'Éternel. Et Dieu lui parle. Et Abraham va accepter d'obéir à Dieu. Je crois que la foi appelle aussi l'obéissance. Hein, on parle de l'obéissance de la foi. Que me sert-il de dire que je crois en Dieu si je n'obéis pas à sa parole? Que me sert-il de vous dire que je vous fais confiance si quand vous me dites quelque chose, je fais toujours tout le contraire? Vous allez dire, celui-là, c'est une drôle de confiance qu'il a en moi. Hein? Vas-y, donne-moi un conseil. Et puis je ne le suis pas, je fais le contraire. Ah ben ça, c'est une drôle de marque de confiance, n'est-ce pas? Hein, et à l'égard de Dieu, eh bien, la confiance, la foi se manifeste par l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Et Dieu dit à Abraham, eh bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et Abraham va accepter de laisser son passé pour marcher, pour quitter Ur en Chaldée, pour quitter ses habitudes, quitter sa religion, quitter sa sécurité, pour marcher vers une route et vers une destination nouvelle et inconnue. Il nous est dit, Abraham partit sans savoir où il allait. Il savait simplement que c'est Dieu qui lui demandait de partir. C'est déjà un pas de foi, ça. Dieu ne nous demande pas toujours autant. Des fois, il nous trace le chemin, il nous dit, voilà, tu pars de là, tu iras là, etc. Et nous, des fois, on n'ose pas. Mais là, il est parti d'Ur en Chaldée sans savoir où il allait. Mais il savait qui lui avait demandé. Il savait qui lui avait demandé. L'engagement de la foi, c'est aussi des interrogations. C'est aussi parfois de se dire, mais je vais changer de situation. Ma vie va changer. Il y a des gens qui ont peur. Mais j'aimerais vous dire que vous n'avez pas, à avoir peur de Dieu. Hein ? Vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Souvent, on fait confiance dans la vie. On fait confiance aux uns, on fait confiance aux autres. La foi, enfin, des formes de foi, pas la foi en Dieu, mais des formes de foi et de confiance, on en a tous les jours. Votre argent, vous l'avez tous sur vous, votre argent ? Non, vous en avez à la banque un petit peu. Hein ? Enfin, pas beaucoup, mais peut-être, mais un petit peu, quoi. Et on fait confiance à notre banquier. Jusqu'au jour où il faut me rendre notre banque, il faudra qu'on court vite pour aller chercher l'argent ce jour-là. Hein. Voilà. Mais c'est une forme de confiance en plein de choses. Je vois des gens qui roulent en ville à 60 à l'heure. Mais si leur voiture, le garagiste avait oublié de mettre les freins dedans, enfin le constructeur, vous imaginez, est-ce que vous êtes capable d'arrêter une voiture même qui roule à 60 à l'heure? Je ne vous dis pas celle qui roule plus vite. Hein. Mais donc il y a des formes de confiance qu'on a dans la vie de tous les jours. Le seul problème de l'homme, c'est qu'il est prêt à faire confiance à un tas de personnes, à un tas de systèmes, à un tas de technologies, et qu'il refuse souvent de faire confiance à Dieu, à sa parole. C'est une attitude, je ne sais pas si vous la trouvez intelligente, mais moi, je ne la trouve pas forcément intelligente, et la parole de Dieu nous dit aussi que ben, ceux qui sont sans Dieu, eh bien, parfois, eh bien, manquent de cela, mais le Seigneur est là, et il ne nous en tient pas rigueur. Et pour nous, eh bien, le Seigneur est aussi celui qui nous appelle à un choix dans notre vie, renoncer à notre vie sans Dieu, renoncer au péché, renoncer à l'idolâtrie, abandonner ses préjugés, ses croyances erronées, ses traditions. Il y a des gens qui disent, je sais bien que ce qu'on m'enseigne, c'est faux, mais vous savez, c'est la religion de mes ancêtres. Voilà. Et quand on interroge les ancêtres, eux aussi, ils savaient bien que c'était faux, mais ils ont continué à faire parce que c'était les ancêtres qui avaient fait pareil. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la logique de telle pratique. C'est vrai que parfois, le poids des préjugés, le poids des croyances, le poids des habitudes est quelque chose qui nous entraîne terriblement vers le bas. Et le Seigneur voudrait, par sa parole, il est venu chercher Abraham. Abraham, viens, suis-moi. Abraham, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et il fallait là abandonner le passé. Et parfois, nous, dans la vie du croyant aussi, le Seigneur parfois l'interpelle et lui dit, voilà, tu es croyant, mais il y a des choses que tu n'as pas abandonnées de ton passé. Des choses, des pratiques parfois qui ne glorifient pas Dieu. Et il faut abandonner. Alors, peut-être que c'est difficile. Il y a un choix à faire. Mais vous savez, quand c'est Dieu et sa parole qui nous invitent à faire un choix, eh bien, je crois que nous avons, je dirais, tout à y gagner. Que même si pour l'instant nous ne voyons pas le bénéfice. Vous savez, des fois quand on s'approche de Dieu, des fois on ne comprend pas tout. Je m'aperçois que même des gens qui ont entendu parler de la Bible depuis des années et des années, des fois ils ne comprennent pas tout. D'ailleurs, honnêtement, je vais vous dire, ça peut m'arriver moi aussi de ne pas tout comprendre. Hein. Et c'est vrai que... Mais je sais une chose. Dans tout ce que je ne sais pas, il y a une chose que je sais. C'est que Dieu est infiniment plus sage, est infiniment plus intelligent, est infiniment plus puissant, est infiniment plus plein d'amour que je peux l'être et que tout être humain peut l'être. Donc quand je ne sais pas, je suis, il sait que lui, il sait. Et je sais qu'en m'appuyant sur ce que lui me demande, je sais que je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais avec lui. Et comme je sais que j'y vais avec lui, alors je sais que c'est le bon port et que c'est la bonne direction. Et c'est le pas de foi qu'Abraham a fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous cet après-midi qui hésite, qui discute, qui coupe les cheveux en quatre, hein, qui est en train d'analyser, en train de dire oui, A plus B égale C, mais est-ce que c'est vrai dans l'autre sens? Enfin bref, hein, on est assez compliqué. Hein. Dieu a fait les choses simples, mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et nous, on les a fait si compliquées. Hein. Ce n'est pas que Dieu est compliqué, c'est nous qui sommes compliqués pour comprendre une chose simple. Alors parfois, et là est notre difficulté, quitte ton pays. Quitte ta famille. Le Seigneur ne demande peut-être pas à quelqu'un aujourd'hui de quitter Toulouse et de s'en aller au Tchad ou au Kenya ou je ne sais pas où. Hein. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'on quitte. D'ailleurs, certains, c'est parfois plus facile de quitter sa famille. Et, hein, il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Au lieu de quitter les mauvaises habitudes et le péché et la mauvaise vie qu'ils ont en eux. Et ça, c'est autre chose. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est là. C'est dans notre cœur, dans notre vie, pour obéir à sa parole. Alors, s'il demande à quelqu'un de le servir et d'aller à l'autre bout du monde, c'est une chose. Mais je crois qu'il nous demande à tous, dans notre cœur, de savoir. Et Dieu nous montre ce qu'il faut quitter, ce qu'il faut délaisser pour aller vers lui. Alléluia. Et quand c'est le Seigneur, Abraham est parti parce que c'est le Seigneur qui lui demandait. Deuxième choix et deuxième crise dans la vie d'Abraham, c'est la séparation d'avec son neveu Lot. Hein, il y avait Abraham, et puis il y avait l'autre, Lot, hein, pas l'autre, enfin c'était l'autre aussi, mais c'était Lot. Hein. Donc Lot c'était qui? Abraham était sans enfant, hein, à cette époque-là, sans enfant, c'est venu après. Au départ, quand il est parti avec son neveu Lot, on pouvait penser que ça pouvait être un héritier éventuel, un compagnon de foi. Puisque quand Abraham part sur l'ordre de Dieu, Lot, qu'est-ce qu'il fait ? Il part aussi. Donc, on pouvait penser extérieurement que Lot était aussi un homme qui avait cru en Dieu. Mais la vie, les événements ont révélé que Lot avait choisi de suivre Abraham, mais qu'il n'avait pas lui-même d'engagement personnel vis-à-vis de Dieu. Et vous savez, il y a toujours ceux qui suivent. Et Lot, il suivait son oncle qui suivait Dieu. Mais lui-même, pendant un temps, on aurait pu le penser. Certainement que quand Abraham priait, Lot, eh ben, il n'était pas dérangé, il priait avec lui. Hein, quand avant le repas, il rendait grâce à Dieu pour ce que Dieu leur avait donné, peut-être que Lot, il était là aussi, il ne renâclait pas, il n'était pas hostile. Hein, il n'était pas hostile. Bon, il n'y avait pas d'église à l'époque, mais je dirais peut-être que Lot, il aurait suivi Abraham à l'église, il n'y avait pas de problème. Il y allait, hein, mais, un moment, le choix s'est imposé de ce que coûte la foi. Il y a des fois où la foi coûte. Alors vous allez dire, ah ouais, mais si la foi ça coûte, alors moi je veux pas croire. Mais je vais vous dire que l'incrédulité ça coûte aussi. Hein. Et ça coûte cher. De vivre sans Dieu, ça coûte cher. Hein. D'ailleurs, moi je dis souvent, il faudrait que le fait d'être croyant soit remboursé par la sécurité sociale. Oui, parce que, non mais, on rit comme ça. Mais quand on devient croyant, le Seigneur nous délivre de tout un tas de choses qui détruisent notre vie, qui nuisent même à notre santé. Combien de gens étaient délivrés du tabac en venant au Seigneur ? Je prends que cet exemple. Sans parler de la boisson, sans parler de la paix que Jésus nous donne à la place du stress. Et c'est pour ça que je dis que la sécurité sociale devrait rembourser la foi. Hein, je dis, bon, comme ça, ça fait sourire, hein, parce que la sécurité sociale, bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, mais c'est vrai, la foi chrétienne, la Bible dit, ce sera la santé pour tes os. Et l'incrédulité, ça coûte. Ça coûte en foyer brisé, ça coûte en suicide, ça coûte en gens qui gâchent leur vie, ça coûte cher. Mais la foi coûte aussi. La foi coûte. Et le Seigneur nous demande parfois un choix dans ce moment de foi. Et là, ils étaient en compagnie, vous connaissez l'épisode, ils avaient prospéré, Dieu avait béni Abraham, et Lot, quand Dieu bénit quelqu'un, ceux qui sont autour, ils sont aussi bénis. Hein ? Ils sont aussi bénis. Et nous sommes des sources de bénédiction. Vous savez, c'est là aussi où je dis, les croyants, eh bien, sont des sources de bénédiction pour là où ils se trouvent, l'entreprise où ils sont. Et quand nous sommes bénis, eh bien, nous sommes une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Hein, si notre comportement est selon l'Esprit de Dieu, nous sommes des bénédictions pour les autres. Combien de gens, dans leur travail, ont vu leur collègue dire « Écoute, tu sais que tu es croyant, prie pour moi. Hein, tiens, il y a des difficultés, là, prie pour moi. Hein, » Même parfois des patrons qui s'appuient sur celui qui croit, parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui ne va pas leur lâcher prise, hein, qui va être là, etc., etc. Et c'est un avantage. Nous sommes une lumière dans ce monde, dans la société. Hein, et les villes où nous sommes, eh bien nous sommes en bénédiction. Amen. Tant que nous sommes dans le monde, le croyant, il est la lumière du monde. Amen. C'est pas pour se gonfler, parce que tout cela, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Hein. Si on s'enorgueillissait, hein, eh bien on n'aurait pas compris grand-chose à cela. Mais là, ils ont prospéré, et donc, à un moment, ils se retrouvent avec un troupeau énorme, et avec beaucoup de serviteurs, et effectivement, ils étaient plutôt sur la montagne, il manquait un peu de terrain, il manquait un peu de pour faire brouter les bêtes. Et donc, un choix s'est imposé. Et Abraham a laissé Lot choisir. Jusqu'à maintenant, Lot avait suivi, mais maintenant, il fallait que Lot choisisse. Dans notre vie, il y a toujours un moment où, vis-à-vis de la foi, il faut que l'on choisisse. Quand on est enfant, on peut suivre ses parents. Quand on est jeune, on peut suivre. Ou peut-être que vous avez rencontré des amis qui vous ont amené à la foi, à écouter l'évangile aussi. Et il y a parfois des gens qui suivent comme ça leurs amis. Nous, on a à Tarbes des gens qui viennent découvrir l'évangile. Et parmi leurs amis, il y a quelqu'un qui leur a dit « Va à l'église évangélique, va écouter l'évangile, ça va te faire du bien, c'est de ça dont tu as besoin. » Alors ils suivent le conseil. Mais il y a un moment où il faut s'engager personnellement. J'ai vu parfois des gens rester des années, et des fois même des dizaines d'années, sans s'engager dans certains endroits vis-à-vis de Dieu. Et Dieu nous demande un engagement personnel. On ne peut pas se reposer sur la foi des autres, ou sur la foi de ceux qui nous ont précédés, soi-disant que c'était des grands croyants. Mais nous, où est-ce que nous en sommes? Et là, l'autre, il faut qu'il choisisse. Et il y a un coup. Il y a un coup. Vous savez, il y a toujours en nous, lorsqu'il y a un choix de foi, un coup de la foi, eh bien, une part en nous qui veut bien et une part en nous qui refuse. Des fois, Abraham et Lot, ils ne sont pas à l'extérieur de nous, ils sont à l'intérieur de nous. Il y a la part qui croit et puis il y a la part qui refuse, qui mesure, qui compte. Et qui va triompher? Il nous est dit que quand Lot a levé les yeux, était là-haut sur le plateau, c'était un peu sec, mais ils étaient à l'abri de la corruption qui régnait dans la vallée. Et puis quand Lot a levé les yeux, il a vu toute la vallée du Jourdain, et écoutez l'expression que j'ai relevée, c'était comme un jardin de l'Éternel. Formidable. Un jardin de l'Éternel, ça nous renvoie à ce que Dieu avait créé de plus beau. Mais remarquez, écoutez bien ce qui est dit. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était pas un jardin de l'Éternel, la vallée du Jourdain. C'était comme. Ça en avait l'apparence. Ça en avait, je dirais, l'intérêt. Il y avait cet attrait de la vallée qui était là. La facilité, le confort, le plaisir. Madame Lot, elle a dit, tu sais, Lot, ça sera quand même plus facile pour aller faire les commissions dans la vallée là-bas, hein, parce que sur la montagne, hein, on mange du mouton, et je ne sais pas ce qu'ils mangeaient avec, hein, quelques graines, etc. Bon, je paraphrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. D'autres fois, c'est d'autres. Tiens, cette situation, elle est intéressante. On aura plus de confort, il y aura plus de facilité. Dieu n'est pas contre le fait. Mais quand ces choses-là emportent et prennent la priorité sur la communion avec Dieu, parce que là-haut, il y avait la communion avec Dieu. Là-haut, ils étaient dans cette tranquillité. Et en bas, c'était quoi? Eh bien, on le sait, c'était la déchéance. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes ressemble pour beaucoup à une vallée de délices. Le monde a beaucoup d'attraits. C'est pas vrai? Mais oui. Le péché a beaucoup d'attraits, sinon il n'y aurait pas de pécheurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des pécheurs? Parce que le péché, il a beaucoup d'attraits. Le péché semble attirant. Les choses qui détruisent les âmes humaines sont attirantes. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui courent vers ces choses-là. Qui pensent que c'est comme un jardin de l'Éternel, que le monde est grand, que le monde est vaste, que le monde est beau, que le monde est magnifique. Regardez maintenant ces technologies extraordinaires. Hein, on a des téléphones maintenant. Hein, moi, je ne sais pas trop m'en servir. Hein. J'ai juste un téléphone. Quand j'ai acheté mon téléphone, il y a déjà de nombreuses années, il est un peu cassé, mais enfin, ce n'est pas grave. J'ai dit, je veux juste un téléphone pour téléphoner, parce que maintenant, il faut vraiment le préciser. Parce qu'on n'est pas sûr que les téléphones qu'on achète nous permettent de téléphoner. Ils font tout. Ils font tout. Ça vous conduit le jour, ça vous conduit la nuit. Si c'est au bon endroit, ça va. Mais, enfin, bon. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous attirer. Et puis, c'est facile, aujourd'hui, dans le monde. Ben pourquoi s'embêter sur des relations compliquées? Pourquoi s'embêter à penser sa vie future d'homme et de femme, mariés, etc. Hein, je ne vais pas vous donner le nom des sites pour pas que vous y alliez, mais il y a des sites de rencontres, c'est facile, sans complications. Vous mettez votre profil, hein, et puis vous avez quelqu'un qui correspond à votre profil parfaitement. Hein, voilà. Vous avez des tas de choses comme ça. On est dans un monde si extraordinaire, n'est-il pas? N'est-ce pas? C'était comme un jardin de l'Éternel. Il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui aux yeux des hommes comme un jardin de l'Éternel, même parfois aux yeux des croyants, comme un jardin de l'Éternel. Je ne veux pas dire qu'il faut s'enfermer dans une hutte, c'est pas ça, et manger je ne sais pas trop quoi, ou vivre je sais. Non, c'est pas du tout cela. Mais c'est la priorité qu'on donne à ces choses-là. C'est la place qu'on donne à ces choses-là. C'est l'intérêt qu'on donne à ces choses-là, au détriment de la vraie foi, de la communion avec Dieu. Et parfois, le coup de la foi dans notre vie, et nous le saurons quand le Seigneur nous dit, tu vois, de croire, ça va t'engager à ça. De croire, ça va te faire lever le dimanche matin. Bon, vous êtes venu l'après-midi, mais enfin, ou le dimanche après-midi. Hein. Les gens qui disent, qu'est-ce que vous faites le dimanche après-midi? À venir vous enfermer et écouter l'évangile. Allez courir dans les montagnes. Vous, c'est un peu loin, mais nous, elles sont plus proches, à Tarbes. Hein. Va t'aérer, etc. Je me rappelle une fois une chrétienne qui, le dimanche soir, elle téléphone au pasteur et lui dit, « Pasteur, cet après-midi, tu restais à la maison avec mon mari ?» Je cite pas ça pour généraliser, mais je suis resté à la maison avec mon mari et je pensais passer un bon moment et puis on a fini par se disputer, on s'est tout embrouillé et tout ça. Hein. Au lieu d'aller écouter l'évangile, elle avait dit, allez, bon, comprenez ce que je dis. C'est que parfois, eh bien, on hésite devant certaines situations ou devant certains choix à faire dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter aux orties, mais là, il y avait l'attrait de la vallée. Il y a des choses qui peuvent nous attirer dans notre vie et représenter à nos yeux un intérêt supérieurs, mais qui vont nous faire oublier le désir de rester toujours plus en contact avec Dieu et avec sa volonté, même si cela doit coûter. Vous savez, je pense très honnêtement que si Lot, il nous a dit, il leva les yeux. Moi c'est toujours un mot que je... On a parlé ce matin, voyant, hein, etc. C'est toujours des mots que je relève dans la Bible. Ce qui se passe par les yeux, ce qui rentre par nos yeux, et le dégât que ça fait quand nos cœurs ne sont pas affermis dans la parole de Dieu et dans la grâce de Dieu, ce qui se passe. Lot a levé les yeux, il a vu cela. Moi, je pense que si Lot avait dit, oui, je vois ça, mais je vois le danger qu'il y a derrière. Je ne vois pas simplement l'apparence, mais je vois le danger. Alors, je vais faire le choix de la foi. Et moi, je sais que je suis peut-être faible, alors je vais rester sur la montagne. Moi, je suis convaincu que si Abraham était descendu dans la vallée et que Lot ait choisi de rester auprès de Dieu, Abraham, sa foi qu'il avait avec Dieu, lui aurait permis de rester dans l'éloignement nécessaire. Parce que voyez-vous, il est descendu pour s'installer dans la vallée, et 3 jours après, on le retrouve dans Sodome. Au départ, il n'était pas pour s'installer dans Sodome. Il était pour s'installer dans la vallée. Mais 3 matins après, il est en plein au milieu de la corruption. « Oh, je ne vais pas aller aussi loin, je ne vais pas me mêler à ces gens corrompus. » Mais il a fait un premier pas qu'il a entraîné vers un deuxième, et 3 matins après, eh bien, on le retrouve dans Sodome. Hein, je ne sais pas si vous avez noté cela et dans quelle situation. Je crois qu'il y a des choix spirituels qui sont nécessaires. Est-ce qu'on va rester simplement, une fois j'ai prêché là-dessus, est-ce qu'on va rester des croyants à la remorque, entraînés par la foi des autres, par l'environnement, jusqu'au jour où eh bien, nous ferons un choix qui ne sera pas le choix de la foi? Ou est-ce qu'on va devenir de ceux qui délibérément vont s'engager avec Dieu? Et parce que leur vie est engagée avec Dieu, parce qu'ils croient eux, parce qu'ils sont en contact avec Dieu, parce que leur vie est engagée avec Dieu, alors les choix qu'ils font sont différents. Ne restez pas des chrétiens à la remorque. Hein, il y a des chrétiens, ils sont à la remorque toujours. Ils sont à la remorque du pasteur, ils sont à la remorque, ils sont accrochés à quelqu'un. Et il suffit que la personne, elle s'arrête ou qu'il y ait des circonstances différentes. Et la remorque, hein, vous voyez, si une remorque, vous la laissez, eh bien, elle n'avancera pas toute seule. Hein. Il faut l'atteler à quelque chose. Et pour un temps, ça va d'être des remorques, mais on n'est pas appelé à être des remorques. On est appelé à être des remorqueurs, enfin, à être des gens dans la puissance, hein, des gens qui vont de l'avant et qui ont une foi en Dieu directe. Hein. Direct, d'ailleurs, n'est-ce pas ce que l'on dénonce parfois, les gens qui disent « Ah oui, mais pour aller à Dieu, il faut passer par un tel, par un tel, par un tel. Hein, » vous voyez, ils sont à la remorque. Donc après, ça fait des trains. Mais de temps en temps, la locomotive tombe en panne et tout le monde tombe en panne. Hein. Tandis que le Seigneur veut qu'on soit en relation directe avec lui et qu'on ne soit pas des gens ainsi sur le retour. Parce que le danger est là. Un jour ou l'autre, on va nous dire « Et toi ?» C'est toi de décider. Et même le plus extraordinaire des pasteurs que vous avez, d'ailleurs, hein, il pourra vous donner tous les conseils qu'il veut. Si vous n'êtes pas dans cet engagement de la foi, eh ben, il y a quelque chose qui craquera et qui lâchera. Et parfois on déplore et on est attristé par certaines décisions que prennent certaines personnes parce qu'elles n'ont pas d'engagement personnel avec Dieu. Réfléchissez à cette nécessité d'un engagement personnel. Troisième, je vais essayer de ne pas être trop long, carrefour et crise, ça a été Ismaël. Dieu leur avait dit « Je vous bénirai, votre postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. » Seulement, pour faire 1000, il faut commencer par 1. Hein? Et les enfants, la postérité, ça n'arrivait pas. 50 ans, 60 ans, et ça tournait. Hein? Le compteur tourne, hein? le temps tourne. Et ils se sont dit, faudrait qu'on trouve un moyen rapide pour pallier à l'absence de la bénédiction. La bénédiction attendue, elle n'est pas là. On a chanté tout à l'heure en son temps. Et nous, des fois, on passe par ce que j'appelle ici la crise de l'impatience vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de certaines situations. Et alors, ils se sont mis à échafauder un projet personnel pour accélérer le plan de Dieu. On va donner un petit coup de main au Seigneur. On va donner un petit coup de main à Dieu. Est-ce que ce n'est pas une tentation qui peut nous arriver, ça ? En disant, Seigneur, ça tarde un petit peu. Hein ? Mais Dieu dit, si elle tarde, attends-la. Parce que des fois, ça ne va pas tarder si longtemps que ça. Et des fois, en étant impatient un jour, on perd des semaines, des mois et parfois sa vie. Pour avoir été impatient un jour, un temps, un mois, une semaine. Et là, eh bien, ils ont été impatients. Alors ils se sont dit certainement que le Seigneur voulait nous apprendre quelque chose, mais enfin on ne comprend pas. Et donc ils mettent en place un projet personnel. Ils vont trouver une mère porteuse. Hein, c'était les mères porteuses de l'époque. Hein, on ne passait pas par les labos et tout ça. Bon, c'était voilà. Hein, et ils ont voulu aider Dieu. Mais vous savez, quand on veut aider Dieu, on finit toujours par handicaper l'œuvre de Dieu. Quand on veut par soi-même, par ses propres idées, ses propres échafaudages, hein, faire des choses très compliquées. Seigneur, je vais te donner un coup de main. Combien il y a de gens qui parfois ont manqué de se laisser guider par Dieu et par l'Esprit de Dieu et ont voulu faire par eux-mêmes. Parfois même en voulant attirer d'autres. Il faut rendre témoignage. Et nous devons être de ceux qui évangélisent, qui sont des témoins de Jésus en tout temps. Seulement, j'ai vu parfois des gens si maladroits, surtout auprès des leurs, qui ont voulu précéder ce que Dieu était en train de faire. Parfois, d'eux étaient même en train de travailler un cœur. Et eux, ils ont tellement voulu faire à leur façon. Ah non, mais il ne faut pas que ça se fasse comme ça, il faut que ça se fasse comme ça. Qu'ils ont poussé. Et puis, aussi dans notre vie personnelle, de dire, Seigneur, voilà, ta volonté, oui, mais je veux que ça aille vite. Seigneur, fais ta volonté, mais vite, Seigneur. Hein ? Seigneur, change ça, mais vite. Seigneur, change-moi, mais fais vite. Seigneur, rends-moi patient, mais fais vite. Hein ? Non, mais c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on nous dit qu'il faut que tout soit vite. Il faut que tout aille vite. Et si notre ordinateur, il débite qu'à 56 kilos, ça ne va pas assez vite. Quoi. On va vite courir en acheter un autre, parce que ça ne va pas assez vite. Et on est dans une pression. Et cette pression, elle finit par devenir un mode de vie, et ce mode de vie finit même par influencer nos choix, nos décisions spirituelles et personnelles. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Pourtant, ils n'avaient pas l'ordinateur, mais il y a eu quand même la crise de l'impatience. Vous savez, on est les mêmes, hein, même si on est à des siècles de distance, on est les mêmes. Vouloir accomplir et faire aboutir les projets de Dieu par nos propres moyens et nos méthodes, vouloir forcer la main de Dieu à agir. Seigneur, il faut que tu fasses ça comme ça. Et alors qu'à côté, le Seigneur est en train de faire autre chose. Non, mais Seigneur, c'est là qu'il faut que tu fasses. À côté, le Seigneur, il a ouvert une porte, mais nous, on tape dans le mur. Parce qu'on veut absolument forcer la main de Dieu. Et ils ont forcé la main de Dieu. Et Ismaël est devenu un projet. Et puis, il est devenu plus qu'un projet. On a réalisé ce projet. On a fait naître cet enfant attendu. Et au lieu d'être une aide, c'est devenu un fardeau. C'est devenu une ombre pesante dont il a fallu se séparer. Un projet pour faire avancer les choses, pour aller plus vite, qui devient finalement un poids, un fardeau qu'on va traîner, pour n'avoir pas attendu le temps de Dieu. Vous allez dire, ils avaient pas mal attendu. Nous, Dieu nous a, heureusement, enfin très souvent, Dieu ne nous demande pas d'attendre autant. On peut dire, oui, ils ont été impatients. Ah oui, mais d'accord, mais enfin, je crois que nous, même avec notre patience, elle est encore plus impatiente que leur impatience. Soit poursuivre, et parfois nous avons ce choix, soit poursuivre son projet, son idée à tout prix, soit dire, Seigneur, je veux non pas ma volonté, mais la tienne. Comme Jésus a dit aussi. Il y a des projets dont il faut se séparer, malgré parfois tout le côté douloureux, reconnaître notre erreur, accepter la façon de Dieu, même si elle semble prendre un peu plus de temps. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu qui se fait dans le temps de Dieu, selon la volonté de Dieu, alors les choses sont bonnes. Elles sont agréables, elles sont parfaites. Ce n'est pas facile pour l'homme du XXIe siècle d'accepter la souveraineté de Dieu sur sa vie. Et pourtant, c'est indispensable pour que notre vie spirituelle soit vraiment épanouie, soit vraiment dans le repos et soit vraiment dans la paix. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on a lu, c'est le texte qu'on a lu. Pour ça que j'en viens. Le test ultime, qui lui est très subtil, c'est le test de la foi d'Abraham et de sa loyauté envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui dit, prends Isaac. Seigneur, mais j'ai Ismaël. Non, tu prends Isaac. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Le fils de la promesse donnée par Dieu. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Seigneur, tu finis par faire aboutir ton plan. Abraham, il n'écoute pas. Et puis finalement, ça arrive quand même. La bénédiction attendue, elle arrive. Le voilà, l'enfant de la promesse, Isaac. Et Dieu lui dit maintenant, va m'offrir ce fils en sacrifice. Seigneur, je sais que tu es contre les sacrifices humains, parce que Dieu est contre le sacrifice humain. Seigneur, c'est l'héritier que tu nous as donné. Que fait Dieu? Il y a un enjeu subtil, mais réel. J'aimerais vous le faire simplement toucher du doigt cet après-midi. Cet enjeu subtil et réel, il se décline comme ça, adorer celui qui bénit ou la bénédiction. Qu'est-ce qui est le plus important? Celui qui bénit ou la bénédiction qu'il nous donne? C'est celui qui bénit. La promesse est-elle plus importante que celui qui promet? Non. C'est subtil. Parce qu'on se dit, c'est Dieu qui l'a donné. Et il y a là un risque, je vais oser le mot, mais quand même je le dis, d'idolâtrie subtile, mais non moins dangereuse. Tant que tu bénis, à ma façon, tu es Dieu. Sinon, j'écarte tout. Est-ce que parfois certains n'ont pas tenu un peu ce discours? Seigneur, là, je ne te reconnais plus. Hein, je ne te reconnais plus parce que tu ne bénis pas. Comme je m'attends à ce que tu bénisses. Tant que tu bénis, tu es Dieu. La Bible nous montre que Dieu doit être adoré, honoré et aimé par-dessus tout. Et je vais même pousser les choses en disant que même si Dieu n'avait rien fait pour nous, il est digne de toute adoration et de toute louange. Mais à plus forte raison, lui qui a maintenant tout accompli pour nous parfaitement, l'œuvre de la croix, ses promesses, ses bénédictions, son secours, son soutien, l'envoi du Saint-Esprit, etc. Bon, je ne vais pas faire le listing parce que ça serait assez long. Hein. À plus forte raison, le louer, l'adorer. Abraham, finalement, Dieu veut tester et puis nous laisser un témoignage de la foi d'Abraham. Jusqu'où va la foi d'Abraham? Est-ce qu'Abraham y croit en Dieu jusqu'à ce qu'il y ait sa génération? Alors Seigneur, tu peux tout me demander, mais lui, tu ne me le demandes pas. Seigneur, tout, mais pas ça. Que fait Dieu? On voit qu'Abraham a une confiance. Je crois que c'est même dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il pensait même que Dieu le ressusciterait, hein, comme une sorte de préfiguration. On n'a pas trop d'éléments. On ne sait pas ce qui se passait dans le cœur d'Abraham. Mais justement, c'est peut-être bien, parce qu'on peut aussi projeter ce qui se passe en nous. Ce qui peut se passer en nous. Abraham s'avance vers le sacrifice. Il ne sait pas tout, il ne comprend pas tout. Il ne se tourmente pas à se poser des questions. Il sait que c'est Dieu qui lui demande ça. Pour l'instant, il ne comprend pas. Mais il est prêt. Parce que pour lui, Dieu passe avant tout. Il est prêt. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il est prêt à... Il lève le couteau sur son fils. Vous imaginez? Et d'ailleurs, on dit que le fils, ce n'était pas un petit garçon, puisque c'est lui qui va charger du bois. Donc c'était sans doute un jeune homme, déjà bien costaud. Et quand il pose des questions, le père, il élude un peu la question, quoi. Parce qu'il ne sait pas lui-même encore, il n'a pas toutes les réponses. Mais il sait que Dieu a la réponse. Je n'ai pas toutes les réponses, moi. Je ne sais pas qui au milieu de nous pourrait dire « moi j'ai toutes les réponses ». Et des fois, on n'a pas toutes les réponses. Mais on a le Seigneur qui... On connaît le Seigneur qui a toutes les réponses. Et Abraham, il fait confiance. C'est le test de la foi, le test de la loyauté ultime, le test de l'adorateur. De qui ou de quoi suis-je l'adorateur? Est-ce que je suis adorateur des bénédictions de Dieu? Il y a des gens qui s'attachent à Dieu. Non, plutôt qui s'attachent aux bénédictions de Dieu, mais qui oublient de s'attacher au Dieu qui bénit. Il y a des gens qui aiment les bénédictions de Dieu. Et parfois, ils aiment tellement la bénédiction que Dieu leur donne qu'ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné. Et il y a des gens que Dieu a bénis et pour qui la bénédiction était un sujet de chute. Non pas à cause de Dieu, mais à cause de ce qu'ils en ont fait eux-mêmes. La responsabilité n'est pas à Dieu en disant « Seigneur, voilà, oui, tu m'as béni et puis cette bénédiction. » Des gens à qui Dieu donne un travail et qui, depuis qu'ils ont un travail, ils viennent plus s'occuper des choses de Dieu. Ils oublient Dieu dans leur vie. Des gens à qui Dieu donne une famille, et quand ils ont une famille, ils oublient Dieu complètement. Des gens à qui Dieu donne des amis, et quand ils ont des amis, ils oublient Dieu. Des gens à qui Dieu donne la santé, et quand ils ont la santé, ils disent « Merci Seigneur, je m'en vais. » Vous n'avez peut-être pas connu ça, mais on a connu ça. Il y a une église dans la région Aquitaine qui s'est ouverte sur la guérison d'un homme qui était cancéreux au stade terminal, il y a de très nombreuses années, il y a des décennies et des décennies. Et quand cet homme est venu écouter l'évangile, il était très connu dans la petite ville où il habitait, il était très connu. Et cet homme a été miraculeusement guéri de la part de Dieu. Il était vraiment au stade terminal. Il a été guéri au point que ça portait, dans ces décennies, un témoignage dans toute la ville et toute la région. Au point que de nombreuses personnes sont venues à l'évangile, ont entendu et se sont converties dans cette église-là, et certains y sont encore. Mais lui... Après avoir été guéri, quelques temps après, on l'a plus du tout revu. Bon, je pense qu'il est mort depuis, peut-être pas de son cancer, hein, mais enfin, puisqu'il avait été guéri. Mais il a délaissé complètement le Seigneur. Bon, et je pense que peut-être vous avez des exemples dans votre esprit de choses comme ça. Des fois, on peut tellement dire, Seigneur, j'ai besoin d'être béni, et le Seigneur sait qu'on a besoin d'être béni. Puis finalement, quand on vient au Seigneur, on vient parce qu'on a un besoin. Et puis on découvre que le Seigneur, il peut combler l'autre, et puis il peut combler notre cœur, et puis il peut combler notre souffrance, et puis il peut guérir ceci, il peut guérir cela. Finalement, on reçoit au-delà de ce qu'on est venu chercher auprès du Seigneur. Et puis on trouve une famille, et puis on trouve un sens à sa vie, et on découvre plus que ce qu'on est venu chercher, c'est pas vrai? On vient au Seigneur en disant, Seigneur, voilà, j'ai ça, si tu peux m'aider là-dessus. Puis le Seigneur, il change notre vie, et il fait de nous des êtres nouveaux. Alléluia, et c'est son projet pour nous, et le projet de Dieu est excellent, mais ce que Dieu demande, ce sont des adorateurs, Jean 4, 23, en esprit et en vérité, alléluia. Alors peut-être que c'est un enjeu subtil aussi dans notre vie, et je voudrais cet après-midi mettre en garde, en disant qu'est-ce qui compte le plus, est-ce que c'est la bénédiction ou est-ce que c'est celui qui bénit? Parce que si c'est celui qui bénit, il y aura encore beaucoup d'autres bénédictions, mais si la bénédiction du moment... Eh bien, c'est ce qui compte le plus, alors on va oublier celui qui bénit, et tout ce qu'il aurait pu encore nous apporter de plus. Alors autant de choix dans notre vie, le choix de quitter, le choix de la séparation, le choix de la foi personnelle, le choix ultime d'être des adorateurs et non pas des gens qui aiment Dieu pour ce qu'il peut leur donner, mais pour ce qu'il est. Alors que tous ces choix dans notre vie, nous puissions les faire comme Abraham les a fait. Il est pour nous l'exemple de la foi mise en application dans les choix de notre vie. Et dans la vie du croyant, eh bien, il y a des choix, il y a des décisions. Mais si nous prenons ces choix par la foi, en nous laissant conduire par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, par la voix de Dieu dans notre cœur, alors nous ne le regretterons jamais. Parce qu'Abraham, eh bien, sa postérité, effectivement, la bénédiction de Dieu s'est accomplie. Et aujourd'hui, dans le monde entier, eh bien, nous aussi, nous sommes finalement, de par la foi, les héritiers de cette postérité et de cette obéissance d'Abraham. Par l'obéissance, eh bien, de la foi, nous en bénissons bien d'autres. Et nous, qui pourra dire quelle bénédiction, quelle répercussion, l'obéissance sur une chose parfois qui nous semble insignifiante, le oui sur une chose qui nous semble petite, est-ce qu'on peut dire toutes les répercussions que ça a? Nul n'est capable de le dire. Mais par contre, si nous disons non, alors, eh bien, nous savons aussi que nous passons à côté de tant de grâces Que le nom du Seigneur soit béni. On va le remercier. Seigneur, je te remercie cet après-midi pour l'exemple de ton serviteur Abraham. Et ce qu'il nous laisse comme enseignement, Seigneur. Je veux, Seigneur, te demander que nous aussi, nous puissions être ces hommes et ces femmes de foi, qui sachons mettre cette foi en application dans les choix de notre vie, dans les moments de crise, dans les moments de décision, dans les moments où il y a de la tension, où il y a de la tentation, Seigneur notre Dieu. Je veux te remercier cet après-midi, Seigneur, pour ces moments et ta parole partagée, qu'elle puisse, Seigneur, et bien être dans le cœur de chacun, Seigneur, cette parole qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.
Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, monsieur le pasteur. On va